Ali Badou, le 7-9.
Jeudi 9 avril, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 24e jour de confinement et cela va durer, a confirmé hier soir l'Élysée. Le chef de l'État prendra la parole lundi soir pour évoquer également une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader. Les autres titres, Agnès.
Les banques en première ligne pour répondre à l'inquiétude des chefs d'entreprise. Gros plan dans le journal sur une filière en crise, celle des producteurs de fromage. Un nouveau record du nombre de morts quotidiens aux États-Unis où la campagne pour la présidentielle a repris. Les kinés qui ne peuvent plus exercer depuis 3 semaines et qui tirent la sonnette d'alarme. Et puis la visite du Louvre sur Internet qui fait un carton.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec Karine Bécard.
Il est l'homme du gouvernement qui planche sur le possible futur traçage par téléphone portable. Mais avec quelle efficacité pour lutter contre le coronavirus? Quel risque pour nos libertés? Et surtout, quand la décision sera-t-elle définitivement prise? Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, sera l'invité de France Inter tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec une invitée exceptionnelle, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application mobile France Inter.
France Inter. Un confinement au-delà du 15 avril, c'est désormais acté, mais pour combien de temps encore? Emmanuel Macron, qui prendra la parole finalement lundi, un peu après 20h, devrait donner des indications. La situation chez nos voisins européens est très diverse en ce qui concerne la rouverture des écoles. L'Autriche prévoit un retour à la normale mi-mai. Les médias italiens commencent à évoquer une reprise uniquement en septembre. En France, donc, dans l'attente d'un calendrier précis, certains parents préfèrent déjà se préparer à un confinement jusqu'à l'été, avec même des déplacements limités durant les grandes vacances, comme cette famille qu'a jointe Emmanuel Grabé.
Que ce soit dans 2 semaines, cet été ou dans 6 mois, Marie et Johan n'en parlent plus avec leur famille depuis qu'il a fallu faire une croix sur les vacances de Pâques.
Je pense qu'on est un peu dans le déni encore là. Comme on est dans l'incertitude, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça. Il faudra, mais on ne l'a pas encore envisagé.
Oui, on sent que c'est quelque chose de douloureux pour tout le monde. Alors bon, on se dit qu'on va se voir bientôt, mais... On ne se dit pas quand.
Profs tous les deux, ils s'inquiètent aussi pour leurs élèves, tant pour leur apprentissage que pour la manière dont ils vivent le confinement.
On se doute bien, de toute façon, qu'avec les ponts qui doivent découler derrière, ils vont pas nous laisser sortir, entre guillemets, comme ça. Donc,
Moi, je me suis faite à l'idée, et on prépare nos enfants à cette idée-là, qu'on retournera pas à l'école avant septembre. On devra peut-être, nous, aller au travail, mais les élèves... Malheureusement, je crains qu'on ne les voit pas avant l'année prochaine, quoi.
Alors, s'il faut rester à la maison encore plusieurs semaines, il va falloir redoubler d'efforts pour rendre la vie acceptable à leurs 3 enfants. Les 2 ados, surtout, commencent à saturer.
C'est des portes qui claquent.
Un peu de cris aussi.
Donc, il va falloir être plus vigilant là-dessus.
Enfin, ils ont le droit aussi de péter les plombs, quelque part. C'est sûr que si ça se prolonge, il va falloir qu'on mette en place des petits projets un peu artistiques. Enfin, entre guillemets, on a fait des petites chorégraphies, des petites choses comme ça, tous les 5, d'avoir des projets quand même.
Des projets à court terme. À long terme, disent-ils, tant qu'on n'en sait pas plus, on ne se les autorise pas.
Et hier, l'Université de Nantes a annoncé qu'elle resterait fermée jusqu'en septembre. Les cours et les examens début mai se dérouleront à distance. Dans son discours lundi, le chef de l'État évoquera aussi la situation économique et sociale. La France est désormais en récession. Un quart des salariés sont au chômage partiel. Cela coûtera des dizaines de milliards d'euros à l'État, qui va devoir aussi porter secours à plusieurs grandes entreprises en difficulté, notamment Air France. Bruno Le Maire, hier soir sur France 2, a également annoncé. On sait que l'État pourrait prendre en charge le loyer de certaines très petites entreprises. Et en première ligne, pour gérer les difficultés des particuliers et des chefs d'entreprise, les banques qui restent ouvertes en période de confinement. Maxime Debs.
Très vite, il a fallu s'adapter à ce très inhabituel ballet de chefs d'entreprise paniqués, comme le raconte Luc Mathieu de la CFDT Banque et Assurance.
Ils ont beaucoup de questions et qui ont éventuellement des difficultés dans la gestion de leur trésorerie, puisqu'il y a un flux de chiffre d'affaires, pour être clair. Donc... Voilà, tout le monde est un peu bousculé.
Bousculé au sens propre comme au sens figuré dans cette période de stress qui n'épargne personne, les esprits vont aussi parfois jusqu'à s'échauffer.
C'est surtout des menaces, des insultes.
Car des fois, le patron désorienté prend un peu trop pour argent comptant ce qu'il entend du gouvernement, certains tenant pour acquise, avant de passer le sas de leur banque, la garantie sur les prêts promises par l'État pour les entreprises en difficulté. Oubliant au passage que c'est aux conseillers bancaires que revient au final tout de même la décision d'octroyer ce prêt ou non.
Le prêt garanti par l'État n'est pas un droit qui est donné à toutes les entreprises. C'est une possibilité appréciée par les établissements bancaires en fonction de la situation de l'entreprise avant la crise du Covid-19. Donc, un certain nombre de professionnels ne comprennent pas pourquoi leur établissement bancaire leur refuse le prêt.
Les banques qui précisent, en cas de refus de son dossier, subsiste la possibilité, toujours en dernier recours, de saisir la médiation du crédit.
Nos banques sont beaucoup plus solides qu'en 2008. Déclaration de Christine Lagarde ce matin dans Le Parisien. La présidente de la Banque Centrale Européenne sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure à 8h20 sur Inter. À noter que les 27 ministres des Finances doivent reprendre cet après-midi leur discussion pour tenter de se mettre d'accord sur les modalités de prêts susceptibles d'être octroyés aux États en difficulté par le fonds de secours de la zone euro. Et parmi les chefs d'entreprise particulièrement inquiets, les producteurs de fromage. Depuis le début du confinement, les ventes de fromage à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis sont en chute libre. Philippe Lefebvre.
Eh bien, en ce moment, le constat est simple. Seuls les fromages industriels râpés ou tranchés que l'on utilise comme ingrédient dans des recettes de cuisine trouvent encore preneur. Mais tous les autres fromages, et notamment les appellations d'origine protégée, ne se vendent pratiquement plus ou très mal, et ce depuis plusieurs semaines. Conséquence directe du confinement, selon Caroline Lepoultier, qui dirige l'interprofession laitière.
La fermeture des marchés, et puis des produits aussi qui sont sous une date limite de consommation plus courte. Et bien, en période de confinement, où on fait un peu plus de stock, ces produits sont un peu moins consommés.
Et à 40 km de Bayonne, Peyo Etchelekou, le patron de la fromagerie Agour, qui produit de l'osso irati, ne peut que constater le phénomène.
La chute des ventes est assez vertigineuse, à vrai dire, puisque depuis le début du confinement, on frôle les 50%. La baisse est allée crescendo, si j'ose dire. Le marché export s'est quasiment éteint du jour au lendemain, depuis maintenant 2-3 semaines. Nous ne recevons plus de commandes à l'export.
Et pour faire face à cette situation inédite dans le monde des produits laitiers, plusieurs entreprises qui élaborent des fromages à pâte molle, comme par exemple les camemberts, Munster ou autres maroilles, pourraient être amenées à réduire leurs achats de lait dans les prochaines semaines. Un système d'indemnisation va être mis en place par l'interprofession laitière pour aider les éleveurs qui produiront moins de lait ou qui seront parfois contraints de jeter une partie de leur production. Faute de débouchés.
La filière fromage qui a prévu d'organiser demain soir le plus gros apéro virtuel avec au programme une dégustation de fromage dans un tout autre domaine. Les principaux pays producteurs de pétrole se retrouvent aujourd'hui par écran interposé pour tenter de stabiliser les prix qui se sont effondrés depuis le début de l'épidémie.
France Inter, 7h07, la suite du journal et on en vient Agnès au bilan sanitaire avec un chiffre à retenir ce matin.
Le nombre de malades en réanimation continue de progresser mais l'augmentation est de plus en plus faible avec un solde de 17 patients en plus entre mardi et mercredi. 7148 personnes sont ce matin en réanimation et le nombre de décès est à présent de 10 869. Mais les morts en EHPAD n'ont pas été comptabilisées au cours des dernières 24 heures en raison d'un problème technique. Et pour stopper la propagation du virus, l'usage du numérique n'est plus tabou. Le gouvernement défend les outils qui permettraient de suivre les déplacements de population et surtout, cela permettrait de limiter les contacts. Le projet s'appelle Stop Covid. Sophie Bécherel nous explique son fonctionnement.
Une application qui ne géolocalise pas et qui ne stocke pas les données personnelles, c'était les deux impératifs que s'était fixé cette poignée de scientifiques. Ils ont mis au point un prototype d'application pour réduire les risques de contagion. Sur la base du volontariat, on pourra télécharger cette application sur son téléphone, indiquer son âge, son poids, ses facteurs de risque, cardiaque, asthmatique, diabétique. Ces informations seront ensuite associées à un numéro crypté relié au téléphone, mais pas à l'identité du propriétaire. Quand un téléphone rencontrera un autre téléphone, ils communiqueront par Bluetooth. Le serveur associera les dossiers et donnera un niveau de risque. Pierre-Jean Bengozi, chercheur au CNRS et professeur à Polytechnique, est l'un des fondateurs de Soyez Prévenus.
C'est une application de service qui vise essentiellement à rendre les gens intelligents et responsables. Donc il ne s'agit pas de dire « vous avez rencontré telle personne, méfiez-vous », il s'agit simplement de dire « dans les 15 derniers jours, à partir des courses que vous avez faites, des personnes que vous avez rencontrées, etc., il y a plusieurs des personnes qui n'étaient pas forcément malades au moment où vous les avez vues, mais qui depuis se sont déclarées malades, et donc votre niveau de risque est moyen ou est haut, etc. Et à partir de là, donc il faut que vous fassiez attention, allez vous faire tester, mettez-vous en quarantaine, appelez votre médecin traitant, etc.
Un peu comme les applications qui scannent les produits alimentaires ou cosmétiques pour nous en donner la composition et le risque sanitaire.
Et on en reparlera tout à l'heure à 8h10 avec Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique. L'épidémie dans le monde avec une situation toujours aussi dramatique aux États-Unis, plus de 400 000 contaminations et une deuxième journée consécutive avec près de 2000 décès enregistrés. Et c'est dans ce contexte que Bernie Sanders a donc annoncé hier qu'il jetait l'éponge. C'est donc l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui sera en novembre prochain l'adversaire démocrate de Donald Trump. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Depuis le sous-sol de sa maison du Delaware, où il est confiné, Joe Biden attaque Donald Trump sur sa gestion de la pandémie. Il est le commandant en chef, il devrait assumer la responsabilité de ce qui se passe et pas blâmer les autres. Puis Biden tend la main aux supporters de Bernie Sanders au terme d'une primaire difficile où les militants les plus à gauche du Parti démocrate étaient très critiques à l'égard de l'ancien vice-président. Bernie a inspiré des millions de gens, salue Joe Biden, avec une vision progressiste du pays. Il n'a pas seulement fait une bonne campagne, il a aussi créé un mouvement. Au même moment, Donald Trump est à la Maison-Blanche pour son briefing quotidien sur la pandémie. Mais ça n'empêche pas le président de s'en prendre à celui qu'il a rebaptisé Joe l'Endormi, avec des attaques pleines de sous-entendus. Ça me surprend qu'Obama n'ait pas encore officiellement soutenu Sleepy Joe. À mon avis, il sait quelque chose que vous ne savez pas et que moi je sais. Il sait que quelque chose cloche. La convention démocrate qui doit officiellement investir Joe Biden a été repoussée de juillet à août, juste avant le rassemblement républicain. Pour l'instant, les deux conventions sont maintenues, mais personne ne sait si elles pourront se dérouler dans des conditions normales. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'épidémie de coronavirus qui pousse ce matin l'Arabie Saoudite à décréter un cessez-le-feu de 15 jours au Yémen. Cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur ce matin, même si les rebelles houthis soutenus par l'Iran n'ont pas encore réagi officiellement.
7h11 et on revient en France, Agnès, avec cet appel lancé par plus de 350 médecins.
Médecins et professionnels paramédicaux qui s'alarment des conséquences dramatiques de l'absence de soins pour certains malades. Ils évoquent même une bombe à retardement. Ainsi, les kinés, privés de leur cabinet depuis le début du confinement, réclament des moyens pour suivre leurs patients. Célia Guiré.
Perte d'autonomie, d'équilibre, difficultés motrices. Après 3 semaines de confinement, la présidente du Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes, Pascale Mathieu, voit bien que certains patients sont en danger.
Je pense aux scléroses en plaques, aux parkinsoniens, aux enfants victimes de handicap moteur. Ça devient difficile. Il y a aussi des gens qui ont des accidents domestiques. On a vu des cas de personnes qui se coupent des tendons, par exemple, des chutes, qui ont des fractures. Et donc, on a aussi des suites de traumatologie qu'il faut prendre en charge assez rapidement.
Le gouvernement a promis un décret pour permettre aux kinésithérapeutes d'effectuer des actes à distance. Ils l'attendent. Ils peuvent soigner à domicile, mais avec 6 masques par semaine, ce n'est pas assez. Pascale Mathieu se désole également de voir que les hôpitaux manquent de kinés pour les patients guéris du Covid après la réanimation. Elle appelle les kinés libéraux à leur prêter main forte.
Il ne faut pas imaginer que quand on sort de réanimation, on est sur ses 2 jambes comme avant. Les patients vont avoir des difficultés motrices et certains seront tout à fait incapables de marcher, de se déplacer. Et c'est là que nous avons un rôle important à jouer aussi. Donc j'espère que beaucoup de kinésithérapeutes vont venir renforcer les postes et qu'on a besoin d'eux actuellement. Bien sûr, ce n'est pas du bénévolat.
Et même si le Conseil de l'Ordre n'y est pas favorable, certains kinés espèrent pouvoir rouvrir leur cabinet avant la fin du confinement.
Enfin, c'est une activité sans risque. La visite virtuelle du musée du Louvre. Et visiblement, ça marche en cette période de confinement. Le site du musée est ainsi passé d'une moyenne de 40 000 visiteurs par jour à près de 400 000. Particulièrement friands de ces visites virtuelles, les internautes français, 40%, suivis des Italiens, des Espagnols et des anglophones. Isabelle Pasquier.
Ça pourrait s'appeler la passion Louvre. Depuis le confinement, le musée a gagné 138 000 nouveaux abonnés sur ses réseaux sociaux, avec des programmes pour tous les publics, des zooms sur les chefs-d'œuvre, en famille, une minute au musée pour se balader dans le Louvre sans complexe.
Qu'est-ce qu'a fait la dame les bras croisés ?
Peut-être qu'elle attend son amoureux ? Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre.
T'es bête !
Et passionnante, les conférences de Michel Pastoureau sur le bleu au Moyen-Âge.
Les Grecs et les Romains n'aiment pas beaucoup la couleur bleue. Dans la Rome antique, par exemple, avoir les yeux bleus, pour les hommes, c'est ridicule. Pour les femmes, c'est signe de mauvaise vie.
Priorité du Louvre à rester connecté au monde entier. Sophie Grange, sous-directrice de la communication du musée.
C'est aussi le rôle du musée que de pouvoir donner ces moments de profondeur, ces moments de sens, ces moments d'émerveillement. Même quand le musée est fermé, on peut le faire par d'autres moyens, avec le digital. Bien sûr, ça ne remplace pas la vraie visite au musée. Elle peut permettre de se préparer éventuellement, ou de réfléchir, ou d'apprendre, ou de s'amuser à travers le digital.
400 000 visiteurs par jour, ou comment visiter en solo et ensemble le plus grand musée du monde en pyjama, avec même les concerts de l'auditorium.
C'était le journal d'Agnès Soubiran.